Suivez Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est en République démocratique du Congo que Priorité Santé vous emmène aujourd'hui. À Lusenda, pour être plus précis, sur les rives du lac Tanganyika. C'est là, dans ce petit village de 2000 habitants, que les autorités congolaises ont accepté de voir se monter un camp où vivent aujourd'hui 30 000 réfugiés burundais. Pour comprendre pourquoi ces personnes sont regroupées sur ce site, il faut remonter à l'année 2015. Après la réélection à un troisième mandat du défunt président Pierre Nkurunziza, le Burundi s'enfonce dans une crise profonde. La violence qui s'installe alors dans le pays contraint à l'exil plus de 200 000 personnes d'après les Nations Unies. Des Burundais qui trouvent refuge dans les États voisins, Rwanda, Tanzanie et donc RDC. Prévu initialement pour 20 000 personnes, ce camp de Lusenda, au sud Kivu, s'est vite retrouvé submergé, ce qui a contraint le HCR à ouvrir un deuxième site à Mulongwe, à un peu plus d'une heure de route, avec sur place 7 000 réfugiés burundais. 5 ans après, nous sommes donc retournés sur place dans le camp de Lusenda pour comprendre dans quelles conditions vivent ces réfugiés, entendre leurs besoins, leurs aspirations. Lors du tournage de ce reportage, fin décembre 2019, 98% des réfugiés affirmaient ne pas souhaiter rentrer au pays, au Burundi. L'élection du général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir à la présidence du pays en mai dernier, et la mort subite de Pierre Nkurunziza n'ont pas fait évoluer les choses, n'ont pas fait évoluer ce choix. Alors, quelles sont les conditions sanitaires, économiques et sécuritaires dans le camp de Lusenda? Comment se passe la cohabitation avec les Congolais? La vie au camp? C'est un reportage signé Igor Strauss. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous êtes donc parti dans le sud Kivu, sur le territoire de Fizi, pour vous rendre dans ce camp de réfugiés de Lusenda. C'était fin décembre 2019. Et pour une fois, Igor, vous n'étiez pas seul en reportage. Vous étiez en compagnie d'autres confrères de RFI.
Avec Sébastien Bonijol, Audrey Yatoni et Christelle Namour du service des auditeurs de RFI, chargés des clubs RFI. Alors, petit rappel, les clubs RFI sont créés par des passionnés de la radio du monde qui montrent des projets culturels, sportifs ou sociaux sur tout le continent. Et lorsque ces projets sont jugés sérieux et utiles, eh bien, ils bénéficient de l'appui du service des auditeurs. C'est ce qui s'est passé avec le club RFI du camp de Lusenda, qui souhaitait lutter contre le désœuvrement dans le camp et qui a donc décidé de créer une bibliothèque, un ciné-club, une chorale et 2 tournois de foot pour les garçons et les filles. Et grâce à l'aide du HCR, qui nous a permis d'avoir les autorisations pour entrer dans le camp, avec le concours de l'association Les Écrans de la Paix et tous les donateurs qui ont fourni le matériel sportif, les livres, le vidéoprojecteur et l'écran, tout cela est devenu une réalité.
Il faut bien le souligner, Igor, l'accès au camp, c'est plutôt compliqué.
Oui, il faut d'abord parcourir la route de montagne entre Bukavu et Uvira, au bord du lac Tanganyika, et de là, rejoindre Lusenda, environ 4 heures de route. Et c'est là que ça se complique, comme la piste est en très mauvais état, un pont s'est effondré quand nous y étions, nous avons dû passer par le lac en bateau pour rejoindre Baraka, puis prendre une piste pour rejoindre le camp.
Alors, qui gère ce camp aujourd'hui?
Principalement le HCR, qui a aidé les réfugiés à s'installer, à avoir accès aux soins et a permis la scolarisation des enfants. Le PAM, pour l'aide alimentaire. Et la sécurité, qui est assurée par le gouvernement congolais et la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC. Mais malgré ce soutien, les conditions de vie restent très dures pour les réfugiés.
Je m'appelle Marie-Jean Nahasoué, je suis réfugié burundais au cadre des réfugiés de Lusenda.
Alors ici, juste pour décrire, on est dans un paysage absolument incroyable. Ça fait comme les montagnes forment un cirque. Donc d'un côté, vue sur les montagnes, de l'autre côté, vue sur le lac Tanganyika. C'est un site splendide. Est-ce que ça aide à la vie ou le décor a peu d'importance finalement dans ces cas-là?
Et avec le meilleur, nous sommes tout près du lac Tanganyika. Ça nous aide pour l'obtention des flétins et des poissons, puisque parmi nous, il y a ceux qui étaient des pêcheurs au Burundi. Et avec ce lac, ça nous aide à conserver notre culture. Et avec les montagnes, étant donné que la majorité des réfugiés sont des agriculteurs, les agriculteurs y promènent pour la plantation des cultures maraîchères à travers les tomates, les arachides. On y plante des maniocs, on y plante des bananes et ça nous aide à renforcer le peu que le pain nous donne pour qu'il ne peut pas nous aider à toucher le début du mois.
Finalement, s'il n'y avait pas ces bâches du HCR, on pourrait presque croire qu'on est dans un village traditionnel normal.
Et effectivement, puisque les Burundais sont des travailleurs, quand nous sommes arrivés ici, les gens n'ont pas croisé les bras. Ils ont commencé à chercher les plantures, notamment les bananiers. Et ils ont construit un paille.
Alors, est-ce qu'on peut visiter une des maisons, justement?
Oui, on peut visiter une maison.
Je vous laisse passer devant. Là, il y a un passage un peu étroit, donc on va marcher sur les pierres. Un peu boueux. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que Burundais, en tant que réfugié, finalement, de voir votre pays pile en face, le Burundi? Ça donne de la nostalgie, ça vous réchauffe le cœur, vous dites que vous n'êtes pas si loin?
Ça nous amène de la nostalgie de chez nous, mais comme nous sommes des réfugiés, nous ne pouvons pas y retourner, mais ça nous guette sur nos cœurs. Oui.
Alors, voilà, on rentre dans une maison. Karibou.
Karibou,
papa. Karibou, ça va?
Ça va bien.
Et ça, c'est une famille réfugiée burundaise. Louis, c'est le chef de la famille.
Bonjour.
Bonjour.
Et là, c'est la maman?
Oui, c'est la maman de la famille.
D'accord.
C'est sa femme.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va bien.
Alors, je passe à l'improviste, mais c'est pour voir un petit peu comment ça se passe, la vie ici dans le camp.
Bon, maïcha, iko mbaya sana. Tuko na njala atuna tena maisha mzuri atuna kabisa.
La vie est dure au cas puisque nous vivons dans une famille très exagérée, nous ne recevons pas même à manger.
On n'est pas assez à manger.
Pour le moment, ça fait des mois sans recevoir de vivres. Depuis le mois de novembre, nous n'avons jamais reçu de vivres de la part du Pam.
Oui.
Alors du coup, comment vous faites pour vivre?
Atuna kisi akufanya ju. Ukienda kopesha mtari kukopesha na kukatalia juu anaona franga hakuna.
Pour se débrouiller et part dans les montagnes pour travailler dans les champs des autochtones et gagne 1000 francs par jour qui ne peut pas couvrir les besoins alimentaires pour une journée. En outre, pour les commerçants, s'ils vont demander des dettes, maintenant ils sont refusés puisqu'ils ont déjà encaissé des dettes et des dettes.
Et vous avez combien d'enfants à nourrir, madame?
Watoto saba. Na mimi na papa.
Ils sont au nombre de 9, donc oui, 7 enfants et le père et la femme.
Alors là, on est dans votre petite cour. Vous avez planté des bananiers. Je vois que vous avez une maison en terre avec un toit de tôle. Comment vous la trouvez, la maison et la cour? Est-ce que ça vous va, ça, madame?
Mbele, mi niko maso. Nilipata ufranga wa kidogo tukauza hii manjanja tukajenga nyumba juu tuone juu bashe ziko zinakosekana tukaona kusema tuishi mnyumba
hii. Avant Carlo ka était d'urgence, il avait du travail, elle est maçon, elle a travaillé à la maçonnerie et elle a acheté cette tôle à partir de cet argent, mais aujourd'hui il n'y a plus du travail, elle est laissée main croisée.
Est-ce que la vie est meilleure ici ou est-ce qu'elle était meilleure au Burundi finalement?
Ok, Burundi juu ndo kwenye tunazaliwa. Kuna saa uko Burundi unaanza pata kazi. Kazi
ni Burundi, comme c'est notre pays natal, c'était facile d'obtenir du travail et gagner de la vie. Mais ici, c'est difficile. Donc la vie s'avère plus difficile ici qu'au Burundi.
Bonjour madame.
Bonjour. Moi, je réponds au nom d'Antoinette, je suis des villages 35.
On parlait des manques qu'il y avait ici, et justement, monsieur me parlait des kits hygiéniques. Est-ce que ça, c'est un gros problème?
Oui, c'est un gros problème parce que si nous ne recevons pas de kits hygiéniques, souvent il y a des maladies et des femmes comme infection, parce que quand on utilise le linge réutilisable, là, on attrape les infections, oui.
Est-ce que vous pensez que la vie pour les femmes est encore plus dure que la vie des hommes ici au camp?
Oui, oui. La vie des femmes, c'est très dur.
Quelles sont les principales difficultés pour les femmes?
Ok. Les principales difficultés, quand on met au monde, nous n'avons pas de l'ambulance. Et quand tu mets au monde sur la route, tu payes des amendes là-bas aux maternités. Ça, c'est une difficulté vraiment. Et autre chose, souvent, ils nous donnent des habits, l'épargne, mais maintenant, nous n'avons pas l'épargne. Et en tant que nous avons de ratio par mois, c'est 12 dollars. Si tu veux acheter des pannes, tu diminues le ratio. Je sais pourquoi.
Donc c'est 12 dollars par personne par mois pour se nourrir, c'est ça? C'est
oui,
ce que
oui.
Vous avez comme...
Oui, oui. C'est 12 dollars par personne. C'est insuffisant quand même.
Mais je croyais vous parliez du transport et des ambulances. Moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait deux ambulances au poste de santé pour vous emmener éventuellement à l'hôpital de Lucenda, en bas.
Ok. Ici, au camp, nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de personnes, de plus de 30 000. Et si ils nous donnent des ambulances, vraiment, c'est insuffisant. Ici, il y a 5 sites. Il y a suite de Katungul 1er, Katungul 2, 3, avec Lulinda. Mais il n'y a pas de centre de santé partout. Et si tu veux appeler les ambulances ici, souvent ils nous disent qu'il n'y a pas de carburant. C'est pourquoi nous faisons des rallongements et on prend les brancards, on appelle les gens, les réfugiés, et on prie les femmes et aller là-bas au poste de santé. Et quand il est mis au monde sur la route, il paye l'amende. Je ne sais pas pourquoi on demande l'amende, parce qu'il n'y a pas l'ambulance. C'est ça la difficulté des femmes.
Vous êtes là depuis combien de temps, vous, madame?
Bon, je suis venue ici depuis 2016.
2016.
Oui.
Et vous pensez que vous allez rester là encore longtemps, vous, madame?
Oui, moi, je suis très dégoûtée. 93, j'ai fui. Et 2016, j'ai fui. Mais en question de retourner pour moi, avec ma famille, non, non, non.
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Boubacar Dabo. Je suis chargé de la construction des abris et infrastructures. Et je m'occupe également souvent des activités WASH, c'est le programme eau, hygiène et assainissement. Donc ici nous avons un système gravitaire qui approvisionne le camp de Lucenda à partir d'une rivière située à 6 km du camp.
Dans les montagnes qu'on
dans
voit loin, c'est ça?
Dans les montagnes qu'on voit loin. Et à partir de cette rivière, on a construit un bac collecteur à partir duquel l'eau doit passer et ensuite rejoint un autre bac qu'on appelle bac de décantation. Ça part maintenant au niveau du camp. On a installé des tanks de chloration. À ce niveau, nous mettons le chlore pour pouvoir désinfecter l'eau. Et ensuite, ça part maintenant au niveau des rampes. Là, nous sommes à côté des rampes. Ce sont des structures métalliques à 6 robinets qui servent maintenant de service aux bénéficiaires qui veulent s'approvisionner en eau.
Elle est de bonne qualité, surtout vraiment?
Oui, l'eau est de bonne qualité. Et nous faisons fréquemment l'analyse pour s'assurer que la quantité de chlore dans l'eau respecte les normes de l'OMS. Voilà, nous avons 52 rampes dans le camp de Lucenda.
Et est-ce que ça suffit pour l'ensemble des réfugiés?
Oui, c'est 30 000 personnes. Nous arrivons à couvrir 20 litres par personne par jour. C'est ça.
Alors, donc WASH, le programme WASH, c'est eau, hygiène et assainissement. Comment ça se passe pour l'accès à l'hygiène dans le camp?
Pour la question d'hygiène, nous avons des sensibilisations que nous menons dans les ménages. Pour une pratique d'hygiène régulière sur le changement de comportement, sur les bonnes pratiques, sur le lavage de mains, sur la sensibilisation des enfants au retour de l'école, comment se comporter avant de toucher les repas. Donc voilà là et le travail en matière d'hygiène qui se fait pour permettre à ce que nos bénéficiaires puissent eux-mêmes s'approprier et essayer de sensibiliser ceux-là qui n'ont pas encore les éléments nécessaires en matière d'hygiène.
Merci beaucoup.
Merci à vous également.
Donc, maintenant, il faut maintenant, vous-même, vous savez comment ça se passe. Il faut maintenant informer à tout le monde que voilà, maintenant, là, comme ça traîne, les réfugiés, ils peuvent venir avec ça.
Bonjour. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien, merci, et vous?
Mais écoutez, ça va très bien.
Bienvenue chez nous au poste de santé de Lucenda.
Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter, docteur.
Oui, moi, je suis docteur Gelor Kouana, le coordonnateur médical ADES. Partenaire du HCR dans le cadre de la prise en charge médicale, nutritionnelle et roche de réfugiés burundais vivant au camp de Lucena et aussi de Tomolongwe.
Alors justement, quelles sont les pathologies généralement qui reviennent ici dans le camp?
Bon, le profil épidémiologique ici dans notre camp, c'est d'abord le paludisme, parce que vous savez que la RDC, c'est un pays endémique épidémique du paludisme. Donc, la pathologie les plus rencontrées ici dans le contexte du camp, il y a le paludisme en premier lieu, il y a les infections respiratoires, il y a les diarrhées, et puis...
Les diarrhées, c'est lié à la qualité de l'eau ou lié à quoi?
Bon, c'est multifactoriel. On ne peut pas dire que forcément c'est lié à la qualité de l'eau, parce que c'est nous-mêmes qui fournissons l'eau. Et l'eau que nous fournissons, c'est une eau de bonne qualité. Mais par contre, il y a certains réfugiés qui vont s'approvisionner au niveau du lac Tanganyika ou bien au niveau de la rivière Lucena. Ces eaux ne sont pas traitées et en consommant de cette eau, ils peuvent être contaminés.
Alors j'ai cru comprendre qu'ici, c'était une région où le choléra était aussi une maladie endémique. Est-ce que les cas de choléra sont fréquents et qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça?
C'est vrai, ici dans le camp, les mesures ont été prises pour améliorer l'eau, les conditions d'hygiène. Mais au niveau de la communauté, ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'au niveau de la communauté locale, on a souvent de flambées de choléra. Et c'est nous aussi, nous sommes à risque. Vu aussi la population qu'il y a ici, la promiscuité dans laquelle elles vivent, nous sommes une population à risque. Et très récemment, au cours du mois de septembre, on avait une épidémie de choléra dans le camp. Mais heureusement, nous avions riposté efficacement à travers des agents communautaires qui travaillent régulièrement pour la sensibilisation.
Et comment vous expliquez que ce soit endémique justement le choléra ici?
Bon, c'est endémique du fait de facteurs de risque. Les activités ici, c'est la pêche et l'élevage. Toute la journée, ils sont au lac là-bas. Ils consomment l'eau des lacs ou l'eau des rivières environnantes. Cette eau n'est pas traitée, cette eau n'est pas propre à la consommation. Et ce problème d'eau amène, fait qu'on soit dans une zone qui est endémique épidémique de choléra. Voilà.
Donc on repasse par le petit couloir.
On va voir d'abord.
Consultation pédiatrique.
Il y a l'infirmier Kitita qui est là, qui est en train de consulter un enfant.
De façon générale, vous estimez pouvoir travailler correctement? Est-ce que vous avez tout le matériel médical, tout ce qu'il faut?
Pour ce qui est des matériels, on a des matériels médicaux requis pour un poste de santé, ça on en a. Mais il y a toujours, comme vous le savez, dans notre pays, généralement le problème d'accès aux médicaments.
Il y a beaucoup de ruptures de stock?
Oui, c'est vrai, le HCR achète des médicaments, mais il y a des médicaments que le HCR ne peut pas acheter.
Comme lesquels par exemple?
Comme les antipaludéens par exemple. C'est l'État qui est censé nous donner des antipaludéens. Mais compte tenu de certains problèmes logistiques, il y a de moins...
Il faut quand même dire qu'ici, on est quand même dans une zone enclavée.
Oui, on est dans une zone rurale.
L'accès est difficile, la piste est vraiment de mauvaise qualité.
Tout à fait. Tous ces problèmes logistiques que je venais d'évoquer là font en sorte qu'il y ait effectivement des problèmes. Des problèmes liés à l'approvisionnement de médicaments.
Et ça, c'est récurrent, justement, ces problèmes de médicaments?
Oui, c'est récurrent, surtout de médicaments traceurs comme les antipaludéens. Je vous ai expliqué que le profil épidémiologique ici, le paludisme occupe la première place. Et donc, si on n'a pas d'antipaludéen, vous imaginez, on ne peut pas traiter un paludisme simple. Et tout le cas, ça sera le cas de paludisme grave et ça sera très compliqué. Il y aura un impact essentiellement, donc on risquerait d'avoir un taux de mortalité très élevé, et ce qui n'est pas du tout bon. Heureusement que nous avions eu un lot de médicaments qui vient d'arriver de la commande internationale, essentiellement des antipaludéens, qui va couvrir en tout cas jusqu'au mois de juin. Mais il faut dire que c'est pas toujours facile, hein, parce que même le système d'approvisionnement, c'est la commande internationale, parce qu'on tient à ce que le réfugié bénéficie des médicaments de qualité. Et pour ce faire, il faut des médicaments qui sont produits dans des firmes qui sont recommandées. Et donc, c'est la commande internationale. Avec toutes les difficultés logistiques qu'on venait de l'évoquer, il n'y a pas de pistes, il n'y a pas les speedboats, il n'y en a pas assez. Et donc, pour que ce médicament nous parvienne aussi, ça prend du temps. Et donc, ce qui fait que, par moment, même si le HCR commande des médicaments, ça peut prendre un peu de temps pour que ça nous arrive ici. C'est vraiment la difficulté majeure que nous avons ici dans notre zone.
Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, docteur.
Merci, je vous remercie beaucoup aussi. Je vous remercie beaucoup.
Priorité santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo, dans le sud Kivu, dans le camp de Lusenda, où vivent encore 30 000 réfugiés burundais qui ont fui leur pays en 2015 lors de la crise politique consécutive au troisième mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza, décédé il y a près de 3 semaines. Et Igor Strauss, on l'a bien entendu hein, dans la première partie de votre reportage, les réfugiés sur place manquent de tout, de nourriture, de médicaments, d'activités aussi génératrices de revenus.
Oui, chaque réfugié avait droit à $15 par mois pour se nourrir et cette aide est passée à $12, créant l'incompréhension. Et l'accès à la terre, à l'agriculture, est un vrai problème, donc il leur est difficile de cultiver un petit lopin de terre. Du coup, les vols de mangue ou de manioc sont fréquents, ce qui crée évidemment des tensions avec les autres Congolais. Il y a donc tout un travail pour favoriser la cohabitation pacifique. Quant à l'accès aux soins, il est possible au poste de santé du camp, ou à l'hôpital du village de Lucenda, mais dans la mesure où les médicaments sont disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas, vous l'avez compris.
Igor Strauss, on vous retrouve pour la deuxième partie de votre reportage en compagnie de Sanne Bismans, responsable des relations extérieures pour le HCR. Et sur place, vous avez assisté à une scène très éprouvante.
Domitil. Allô, maman. Reste avec nous, hein. Domitil.
Elle est tombée dans les pommes, la dame, là. C'est la dame qu'on entendait pleurer tout à l'heure, c'est ça?
Oui. Elle a été violée et elle a entendu aujourd'hui que l'auteur, il a été libéré de prison. Et alors, elle est venue ici pour exprimer son souci. Et je pense qu'elle était vraiment désespérée, hein, avec beaucoup de tension, beaucoup de douleur.
Dès qu'on avait arrivé à arrêter son notaire qui l'avait fait du mal, le viol, on avait acheminé son notaire vers les cachots ici au camp. Et après, son notaire était acheminé vers Ouvira pour les cachots. Avant que l'auteur soit acheminé vers Ouvira, il y a les membres de famille et de l'auteur qui étaient venus chez la dame pour la menacer en disant que si leur fils part à Ouvira pour les cachots, on va la tuer. Et aujourd'hui, elle vient d'apprendre que l'auteur qui est à Ouvira est libéré dans les cas. C'est pourquoi la dame est venue ici se plaindre. Pourquoi on a libéré l'auteur qui était au prison Ouvira?
Et il est resté combien de temps en prison à Ouvira?
Il est resté à Ouvira pour... c'est un mois seulement.
On a ici dans le bureau de Watch Out et il y a une personne dans une situation qui doit aller à l'hôpital.
Bon, elle bouge, là, elle a envie de vomir, je crois, là. Elle crache.
On ne va pas la transporter dans le véhicule. Hein, oui, allô, docteur Gellor, je suis ici dans le bureau de...
Mettez-la en position latérale de sécurité.
Et on a un problème avec une victime de viol.
Mets-la en position latérale de sécurité, sur le côté, là. Non, plie les jambes, il faut plier les jambes. Et on la fait tourner comme ça, tranquillement, sur le côté. Il faut qu'elle puisse évacuer, voilà. Comme ça, le bras comme ça. Est-ce qu'on a un petit oreiller, non?
Non, pas le temps.
Ça arrive souvent, ça?
Non, ça n'arrive pas souvent. Ça, c'est le problème de l'impunité. Les gens ne sont pas punis. Quand ils commettent des choses, des fautes, des viols, ils ne sont pas punis.
Est-ce qu'il y en a quand même certains qui sont punis ou jamais, jamais punis?
Il y a quand même ceux qui sont punis, puisqu'il y a ceux-là qu'on a dans les prisons. Mais il y a les autres qui sont délaissés, comme les cas pareils ici. Le cas de cet auteur.
Domitil. Domitil.
Alors, on est au poste de santé. Vous avez accompagné la dame qui s'est évanouie.
Oui, je suis accompagnée, la survivante. Et il y a les infirmiers qui sont là pour accueillir les malades. Et ils ont accueilli la malade et ils s'en chargent avec les malades. Oui.
Et qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent que c'est l'hypertension. Oui, oui.
En tant que femme, vous, ça vous choque?
Vraiment, ça choque beaucoup, puisque quand on voit une femme qui tombe dans de telles choses, même demain, ça peut même arriver aussi, puisque les hommes pensent qu'il ne peut pas être puni et il peut arriver même à faire de telles choses pour toutes les femmes, puisqu'ils ne sont pas punis. Vraiment, ça choque beaucoup. Ça choque vraiment.
Merci, madame.
Ok, merci aussi.
Ah, alors que l'hélicoptère de la MONUSCO survole le camp. Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Ndemulio Konseli.
Je m'appelle Ndemulio Konseli.
Sous-comité SGBV.
Je travaille sous le sous-comité GBV. Sous-comité violence sexuelle basée sur le genre.
On va s'intéresser particulièrement aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Est-ce qu'elles sont fréquentes et de quel type de violence parle-t-on finalement?
Et dans notre camp de Lucenda, à partir de la sensibilisation que je réalise, il y a vraiment beaucoup de cas de violences sexuelles faites aux jeunes filles, aux enfants et aux femmes.
Même les enfants sont concernés par les violences sexuelles?
Cette catégorie de violence, c'est plus fréquent pour les enfants, les jeunes filles, à partir de 10 ans. Ces enfants vont souvent dans la forêt chercher des bois de chauffage. Quand ils cherchent les bois de chauffage, elles se croisent avec les bourreaux au niveau de la forêt. Et voilà, la jeune fille va subir cette forme de violence. Et c'est vraiment, vraiment trop fréquent dans ces milieux. Il y a même des jeunes filles de 12 ans, de 13 ans, qui sont grosses.
Qui sont tombées enceintes?
Oui, qui sont tombées enceintes. Nous la classons toujours dans les formes de violence sexuelle parce qu'elle est tombée enceinte avant l'âge mature.
Et justement, est-ce que les coupables sont souvent identifiés et condamnés ou est-ce qu'il y a une totale impunité finalement?
Il y a quand même beaucoup de bourreaux qui sont arrêtés, mais la situation persiste.
Vous, madame, vous travaillez auprès des enfants, c'est ça?
Ah oui, oui, moi aussi je travaille dans le cadre de la protection des enfants.
Alors, je vous laisse vous présenter, vous.
Merci beaucoup, moi c'est madame Rosette. Je travaille dans la protection des enfants dans le programme du World Child. Donc je suis assistante au projet protection des enfants.
Et donc, ces peines, c'est des peines lourdes ou vous pensez que c'est des peines pas assez lourdes?
Oui, oui, ce sont des peines lourdes parce que ça essaie un peu d'éradiquer ces formes de violence. Mais malgré cela, comme il y a un système de liberté provisoire et la victime n'est pas indemnisée, ces peines, malgré elles existent, ça frustre la population, ça frustre la communauté. Il y a aussi les bourreaux des fois parce que dans le milieu où nous exerçons, il y a des compétences qui sont différentes. Donc il y a des problèmes qui peuvent se traiter soit au sud, soit dans la ville, là où il y a la grande prison. Mais ça arrive là-bas, le bourreau est parti, mais le plaignant ne se présente pas. Et là, on peut donner liberté provisoire au bourreau. Et ça frustre même les activités que nous faisons. Ça frustre. Mais cette peine, vraiment, elle est encourageable, mais il faut que les mesures d'accompagnement soient appliquées pour que ça soit vraiment effectif. Voilà.
Combien d'enfants ont été victimes de pédophiles et combien de pédophiles ont été condamnés?
Pour les enfants, depuis l'année 2015 et jusqu'à présent, 175 enfants qui a été enregistré.
Et donc 175 enfants sur une population dans le camp estimée à 30 000 habitants, mais avec les adultes, c'est un chiffre qui est considérable, c'est énorme.
C'est énorme, c'est pourquoi il y a des catégories. Il y a des catégories, ceux qui subissent des violences sexuelles avec grossesse. Il y a des catégories aussi des mariages d'enfants, parce que tout ça, ça entre dans la forme de violences sexuelles. Et il y a des catégories des enfants qui sont pris par la force, et ils vont avec ça dans la forêt. Maintenant, si vous faites la compilation de tous ces chiffres, c'est ce qui donne les chiffres que je venais de...
Les 175 sur 30 000.
Catégories.
moi, je suis Rebecca Liran. Je suis chargée associée de protection chez UNHCR, basée à Baraka. Puis, je fais la protection communautaire.
Très concrètement, comment faites-vous justement pour assurer cette protection? Est-ce que vous avez des exemples très concrets pour réduire les violences faites, alors principalement aux femmes et aux enfants, mais donnez-nous des exemples très concrets.
Ok. Bon, d'être concret, on fait les sensibilisations avec les communautés, avec les communautés de réfugiés, aussi avec les communautés hôtes. On fait les sensibilisations et les formations pour les autorités pour expliquer c'est quoi la protection communautaire, comment on peut protéger les réfugiés, les femmes et les enfants. Donc, on fait les formations très souvent. Et puis, on a la gestion des cas individuels. Donc, on travaille très proche avec nos partenaires au camp qui suit les cas individuels. On a le système de référencement pour assurer que chaque cas est référé au centre de santé pour les services psychosociaux et pour vraiment assurer que les besoins des enfants et des femmes et tout le monde qui ont besoin sont gérés.
Comment pouvez-vous faire justement pour que les coupables soient condamnés, pour assurer encore plus la sécurité des victimes?
Bon, en fait, on fait le plaidoyer avec les autorités souvent, et aussi on fait les formations avec la police qui sont au camp pour assurer que si un cas arrive, les polices savent quoi ils ont besoin de faire et tout ça. Bon, on fait les sensibilisations avec beaucoup de personnes en différents camps. Et je trouve que quand on fait les formations avec les autorités locales, ils sont très impressionnés. Ils ont envie de changer la vie des réfugiés, de protéger les réfugiés qui sont chez eux. Donc, bon, je pense que notre travail sur ça, c'est très fort. Et on continue de faire les formations et les sensibilisations avec eux tout le temps, oui.
C'est Jérémy Moupépé, je suis chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés à Baraka. Je gère les deux camps de Lusenda et de Mulongwe.
Alors la sécurité, justement, c'est une grande crainte des réfugiés. On connaît ce qui se passe un peu dans la région, mais comment assurer davantage la sécurité?
L'État congolais nous a confié un détachement de la police. C'est une police qui travaille avec nous. Et cette police est chargée d'assurer d'abord l'ordre dans le camp. Donc lorsqu'il y a des infractions qui sont commises, il y a de l'instruction qui se passe au niveau du camp pour essayer d'apporter la tranquillité. Et il y a aussi de mobilité sécuritaire, donc il y a des mobiles qui tournent autour du camp pour se rassurer que tout se passe bien. Et lorsqu'il y a toute question qui peut déborder, nous avons tout autour des camps les forces armées qui sont juste au-dessus du camp, au cas où il y aurait attaque, comme on en a eu dans les années passées avec les camps des réfugiés rwandais, au nord Kivu, au sud Kivu. Alors, toutes les précautions sont prises pour que cela ne se reproduise plus. Et en dehors de ça, il y a tout un contingent de la MONUSCO aussi qui est à côté là pour nous appuyer. Donc, sur le plan sécuritaire, il y a pas vraiment de problème parce que toutes les mesures sont prises. Et je crois que au-delà de ça, c'est juste un problème de cohabitation avec la communauté que nous demandons, parce que partout il y a une nouvelle culture, une nouvelle population avec une autre culture qui approche. Et c'est certainement qu'il peut y avoir un choc des cultures qui peut provoquer des petits problèmes de cohabitation, mais au regard de l'histoire, avec tout ce qu'on a déjà vécu, en tout cas jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problèmes assez graves. Donc sur le plan sécuritaire, nous avons totalement maîtrisé, il n'y a pas eu d'incident grave. Et du point de vue de la cohabitation avec la population, c'est vrai qu'il y a parfois, même entre Congolais, il y a parfois des tiraillements, il y a des petits problèmes que nous essayons toujours de gérer.
Oh, le beau tas de briquettes là. Alors, de quoi s'agit-il? Déjà, je vous laisse vous présenter.
Je réponds au nom de Renz Olivier. Je suis président de l'association de la Synergie pour la fabrication des briquettes. Cette idée m'a venu dans le cadre de la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les réfugiés et la communauté haute. Car à notre arrivée, il y avait beaucoup de mésententes liées à la déforestation de l'environnement dans les montagnes environnant le camp.
Et du coup, vous vous êtes dit, pour stopper la déforestation, on va fabriquer ces fameuses briquettes. Alors, c'est, pour les décrire, c'est des petites boules gris foncé, on va dire, d'environ 7 cm de diamètre.
Oui, oui.
Concrètement, c'est fait de quoi, ces briquettes?
Je dirais que c'est un mélange des coques et des noix. Il y a les déchets de braise. Il y a les déchets d'alcool local, communément appelé mchipula. Il y a l'argile comme mélange intérieur, comme éliant. Voilà.
Bonjour.
Bonjour. Je réponds au nom de Madame Odile. Je travaille comme associée de protection pour les ACR.
Alors Olivier expliquait les bienfaits de ces briquettes pour la protection de l'environnement et pour la cohésion sociale entre les Congolais et les réfugiés burundais. Mais il y a également un autre avantage pour ces briquettes, pour les femmes notamment. Quel est-il ?
L'avantage des briquettes pour les femmes est que quand la femme a des briquettes, la femme ne va plus chercher du bois d'échauffe dans la brousse. C'est en allant chercher du bois d'échauffe dans la brousse que la femme est exposée au risque de violence sexuelle par les hommes non autrement identifiés ou d'autres personnes mal intentionnées. Et donc l'approche briquette, c'est vraiment une solution de protection de la femme et de la famille. La communauté d'accueil n'est pas aussi d'accord que leur colline soit déboisée. Et donc, quand les collines ne sont pas déboisées, c'est la collaboration, c'est le dialogue, c'est la paix et les conflits qui diminuent entre les réfugiés et les autochtones. Et donc, il y a plusieurs avantages et donc ça touche plusieurs secteurs.
Moi, c'est Gabriel Nzanzu, je suis associé de protection à base communautaire. Je travaille pour l'UHC.
Je me demandais l'intérêt du sport, de toutes les activités proposées pour les jeunes et les moins jeunes, hein, le cinéma, la bibliothèque, les salles de communauté, la chorale. Toutes ces activités permettent de lutter contre l'oisiveté, mais il y a un autre rôle également.
Ces activités permettent de promouvoir les talents de jeunes à travers différentes activités, comme vous l'avez dit, les sports, la culture, la danse. Et cela permet également, étant donné que nous avons autour de nous la communauté haute, les Congolais, il y a donc cet aspect d'intégration, de cohésion sociale entre les deux communautés. Et donc le fait de voir le jeune réfugié être ensemble avec les jeunes Congolais, cela renforce la cohésion et la cohabitation pacifique entre les deux communautés.
Est-ce qu'il y a aussi un côté sécuritaire ou pas, de protection de ces réfugiés ?
Oui, tout à fait, d'autant plus qu'à travers ces activités, nous avons le jeune, par exemple, qui ne pourrait peut-être plus être recruté par les forces, groupes armés, peut-être qui écument un peu la région. Et donc, c'est une façon aussi de les garder contre toutes ces différentes activités illicites.
Et pour les jeunes filles, c'est une protection supplémentaire ?
Tout à fait. D'autant plus que, premièrement, la jeune fille se découvre. Elle a la capacité de pouvoir développer son physique, son talent. Et en plus, c'est une occasion pour elle plutôt de pouvoir étaler ses talents, de pouvoir aussi briser ses barrières sociales. Parce que les filles, en fait, on pense que la fille, sa place, c'est juste à la cuisine. Sa place, c'est aller au champ. Sa place, c'est garder les enfants, puiser l'eau et tous les autres travaux ménagers. Alors que ce n'est pas la réalité, en fait. Aujourd'hui, le monde est tel que, en fait, il y a une façon de pouvoir avoir une perception nouvelle de la femme, plutôt contributive au développement de la communauté, au développement de sa famille. Bref, c'est la contribution en tout cas au développement de la personne sur tous les plans.
Et ça, très sincèrement, vous avez vu des changements de comportement grâce à ces activités ?
Tout à fait. D'autant plus que je me rappelle qu'avant le développement de ces activités ici au niveau du camp, on avait un petit nombre de filles qui étaient engagées dans ces activités. Jusqu'à un moment, nous avons remarqué qu'il y a vraiment un engouement. C'est devenu vraiment une attraction pour la jeunesse.
Merci beaucoup.
Merci.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise votre émission. C'est Toussa Maki, Ophélie Lassen et Didier Bleu. Demain, comme jusqu'à la fin du mois d'août, nous poursuivons notre cycle de rediffusion. Vous pourrez réentendre l'émission consacrée au massage, soigner le corps et l'esprit, lutter contre le stress, les maux de dos, les douleurs musculaires. D'ici là, restez à l'écoute de RFI, portez-vous bien. Lavez-vous bien les mains et pensez au masque dans les lieux fermés et en cas de forte affluence.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.